après la recherche fondamentale, je vous propose un focus sur les nouveaux médicaments. Le professeur Bruno Dubois va nous en parler. Donc, professeur Bruno Dubois, bonjour. Vous êtes neurologue, membre de l'Académie de médecine, directeur scientifique de la Fondation Recherche Alzheimer. Donc, quels sont ces nouveaux médicaments dont on parle tant? Quelle est leur efficacité? Et puis, comme votre communication s'appelle les enjeux d'avenir de la maladie d'Alzheimer, je vais aussi vous demander, dans l'avenir, traitement peut-on imaginer? Quel type de traitement pour la maladie d'Alzheimer?
Très bien, merci Brigitte d'être là et de me poser ces questions. Et je vais essayer d'y répondre. Ce que je voudrais faire en réalité, je voudrais, si vous voulez, reprendre, mettre un peu tout ça en perspective. Bien sûr, je vais parler des traitements et vous êtes là pour entendre parler des traitements. Mais ce que j'aimerais, c'est peut-être vous expliquer un peu où on en est. Et d'où on vient? On vient au départ, vous le savez, d'une description par un médecin qui s'appelle Alois Alzheimer et qui, en 1901, je crois, a pris en charge cette patiente que vous voyez à gauche. C'est lui qui a pris la photo de cette malade qui avait 52 ans. Je vous dis ça parce que c'est important, vous allez comprendre les raisons pour lesquelles j'insiste sur cette première description. Et vous voyez là les troubles qu'il a décrits. Lorsque cette patiente est arrivée dans son service, il l'a suivie lui-même et puis ses collaborateurs pendant un certain nombre d'années. Cette patiente est décédée et à ce moment-là, il a examiné le cerveau de cette patiente et il a trouvé des lésions qui vous ont été décrites tout à l'heure par Jean-Charles Lambert et qu'il a rapportées au cours de ce congrès de Tübingen en 1906. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour deux raisons. Même pour trois raisons qui, à mon avis, sont essentielles à comprendre. La première, c'est que la maladie qui a été décrite par Alois Alzheimer, la maladie d'Alzheimer, est une maladie qui touchait une personne jeune, en l'occurrence de 52 ans. Et dans l'histoire de la médecine, quand j'ai appris au cours de mes études de médecine la description de la maladie d'Alzheimer, on disait que c'était ça faisait partie de ce qu'on appelait les maladies préséniles, les démences préséniles, c'est-à-dire des maladies très rares qui touchaient des gens de moins de 65 ans. C'était la limite, si vous voulez. C'était une démence, donc une maladie du cerveau qui débutait tôt dans la jeunesse. C'était une maladie rare. La maladie d'Alzheimer était une maladie rare. Et puis ce n'est que au milieu des années 60 qu'un médecin américain a dit, mais attendez, cette maladie d'Alzheimer qui a été décrite par Alzheimer chez des gens jeunes, mais c'est exactement la même maladie que l'on observe chez des gens âgés, c'est chez des gens qui ont ce qu'on appelle une démence sénile, vous savez, le gâtisme, les gens un peu âgés qui ont des troubles de mémoire à la fin de leur vie. Eh bien, quand on examine le cerveau de ces patients, quand on regarde les troubles qu'ils présentent, quand on fait des enquêtes biochimiques sur les anomalies qu'il y a dans le cerveau de ces gens âgés qui ont cette démence sénile, on se rend compte que c'est exactement la même chose. Et donc, à partir de ce moment-là, on a décidé d'appeler maladie d'Alzheimer l'ensemble de ces maladies, à la fois la forme décrite par Alzheimer, la forme rare, et la forme banale, qui est celle que l'on connaît, qu'on connaissait chez nos grands-parents à la fin de leur vie. Et c'est la raison pour laquelle la maladie d'Alzheimer, qui était une maladie rare, est devenue une maladie extrêmement fréquente. Vous comprenez? Et c'est intéressant à rappeler. La deuxième chose qui est intéressante, et ça c'est historique, c'est que c'est la première fois que l'on rapportait des troubles cognitifs, des troubles démentiels, des troubles même un peu psychiatriques, des troubles mentaux, puisque cette malade avait des hallucinations, elle était paranoïaque, elle avait des délires, et bien que l'on rapportait des modifications de cette nature à des lésions cérébrales. Et c'est finalement la première fois qu'on a rentré une pathologie psychiatrique dans le domaine de la matérialité et des dysfonctions cérébrales, et que l'on a compris que finalement le cerveau produisait la vie mentale comme le foie produit la bile. Voyez, et je crois que cette observation est quand même absolument essentielle sur un plan historique, et je voulais donc vous la rappeler. Et la troisième notion qui est importante de comprendre par rapport à cette observation, c'est que finalement, le diagnostic de cette maladie n'était, tout au moins à cette époque, possible que lorsque les patients étaient décédés, puisqu'il fallait examiner le cerveau de ces patients pour voir les lésions qui ont été décrites. Et c'est là, en post-mortem, qu'on pouvait dire, ah bon, les troubles que présente la personne, le syndrome qu'elle présente, le syndrome démentiel qu'elle présente, est bien en rapport avec une maladie d'Alzheimer, puisqu'il y a les lésions de la maladie dans le cerveau des patients. Donc c'est bien que c'était un diagnostic que l'on ne pouvait jamais pratiquement affirmer. Donc c'était un diagnostic de probabilité à cette époque. Et c'est ce que vous avez dans ces premiers critères qui ont été présentés en 1984, qui disaient finalement la maladie d'Alzheimer, c'est un diagnostic de probabilité, c'est une démence, un tableau de démence, quand on a éliminé toutes les autres causes finalement. Quand on a éliminé une syphilis, quand on a éliminé une infection, une inflammation, etc. Bon, ben quand on a tout éliminé, bien, on va dire que c'est une maladie d'Alzheimer probable. On n'en avait pas la certitude, vous voyez, et c'était un diagnostic d'exclusion, finalement. Voilà. Donc je voulais vous rappeler, je voulais faire ce rappel historique pour que vous compreniez bien d'où on part. Et maintenant, je vais vous montrer où on est arrivé. Où on est arrivé parce que depuis 1984, et je dirais même depuis 2005, on a énormément progressé concernant cette maladie, et c'est ce que je vais vous raconter maintenant, si vous voulez, c'est cette deuxième partie de mon exposé, ça va être toutes les avancées qu'on a faites au cours de ces dernières années. Alors premièrement, ce qu'on a appris, c'est qu'il y a en réalité deux stades dans la maladie d'Alzheimer. J'ai un peu contribué à cette description des deux stades, puisque c'est moi qui ai introduit le concept de maladie d'Alzheimer prodromale, c'est-à-dire d'un stade précoce de la maladie d'Alzheimer, et c'est fondé sur des travaux qui ont été notamment faits par un collègue allemand qui s'appelle Brack, et qui a montré qu'en réalité, quand on étudie les lésions de la maladie d'Alzheimer, eh bien, on se rend compte qu'il y a finalement différents moments, et que ça débute ici au niveau d'une petite région du cerveau dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui s'appelle l'hippocampe. Et donc, c'est le travail de Brack qui a dit, mais attendez, la maladie d'Alzheimer débute au niveau de l'hippocampe, et ce n'est que longtemps après que les lésions vont diffuser vers l'ensemble du cerveau pour, évidemment, envahir l'ensemble des grandes fonctions cérébrales. Et donc, on va avoir la possibilité de décrire deux stades. Le stade où la maladie est isolée au niveau de l'hippocampe, et quand on sait que l'hippocampe, c'est, écoutez-moi bien, la porte qui ouvre la banque du cerveau, c'est la porte par laquelle vont pénétrer les informations que nous percevons pour entrer dans le cerveau. Si la porte est fermée, si l'hippocampe est cassée, les informations que nous vivons ne vont pas rentrer dans le cerveau, ne vont pas rentrer dans la banque. Donc finalement, les patients vont vivre vont être présents et vont participer aux événements qu'ils voient ou qu'ils entendent, mais ils ne pourront pas transformer cette information perçue en trace de mémoire. Ça ne pourra pas être conservé dans la banque cérébrale. Voyez. Donc l'hippocampe est cette région du cerveau qui permet au souvenir de se créer, qui permet à l'information perçue à être stockée dans le cerveau. Donc il va y avoir une première phase pendant laquelle les gens vont avoir des troubles de mémoire isolés, ils vont avoir ce qu'on appelle un syndrome amnésique isolé, ce que j'ai décrit, le stade prodromal de la maladie, et c'est un stade pendant lequel les gens vont avoir des troubles de mémoire, mais peuvent continuer à vivre à peu près normalement. Et moi j'ai suivi des patients qui pendant 10-15 ans, j'en ai eu une, mais qui a 18 ans par exemple, qui est resté dans ce stade relativement isolé avant que petit à petit les lésions, si vous voulez, vous voyez, débordent de l'hippocampe, et à ce moment-là, il va y avoir la juxtaposition d'autres symptômes et qui sont décrits là, et vous voyez à ce moment-là apparaître, je ne vois pas très bien, mais bon, apparaître des troubles de la planification, on en a parlé, troubles du langage, des troubles des gestes, des troubles de la reconnaissance des visages ou des objets, et des troubles du comportement et des troubles psychiatriques, si bien que petit à petit, le tableau va s'enrichir et ces gens ne vont plus être, ces malades, ne vont plus être autonomes. Ils perdent leur autonomie. Ils sont dépendants, ils ont besoin qu'on les aide dans tous les gestes de la vie courante. Ils ont besoin qu'on les aide, par exemple, pour se déplacer ou pour prendre leurs médicaments ou pour téléphoner tout simplement ou pour s'occuper de leur gestion financière, de leur budget. Et donc, ils sont dépendants. Et c'est ça le terme de démence en médecine, Et dément, ce n'est pas quelqu'un qui a perdu la tête, c'est quelqu'un qui est dépendant. À partir du moment où vous êtes aidant d'un patient, ce patient, on peut considérer qu'il est dément, il est plus autonome. La perte d'autonomie définit ce qu'on a en médecine, la démence. C'est un terme malheureux, mais c'est comme ça. Pardon ? Il faut aller plus vite ? Ah ben oui, parce que là j'en suis à ma troisième et j'en ai 25. La deuxième chose qu'on a découverte, c'est qu'on peut maintenant visualiser les lésions dans le cerveau. Et vous allez faire de la médecine avec moi. Vous avez à gauche, voyez, un cerveau, le cerveau d'un sujet de contrôle. Et là, vous avez à droite le sujet d'un patient atteint de maladie d'Alzheimer. Là, vous avez la grille de lecture. Quand c'est bleu, c'est froid. Quand c'est rouge, c'est chaud. Il y a des lésions. Vous voyez, là, il n'y a pas de lésion. C'est un sujet contrôle. Mais là, vous avez un sujet qui a une maladie d'Alzheimer. Et vous voyez, c'est jaune et c'est même rouge. C'est-à-dire qu'il y a des lésions, notamment dans la région antérieure. Vous voyez, et c'est comme ça qu'on fait le diagnostic de maladie aujourd'hui. On a maintenant des moyens de visualiser les lésions. Vous voyez, les progrès qu'on a fait. Avant, il fallait couper le cerveau. Là, maintenant, on l'a. On l'a in vivo. Ce soir, madame, si vous voulez venir avec moi, nous allons au CHU de Lille et on va vous faire cet examen. On va savoir si on a, et c'est moi, si j'ai les lésions de la maladie. Vous voyez, je peux le savoir aujourd'hui. Ça a complètement changé les choses, vous comprenez. D'autant plus que maintenant, on peut aussi mesurer les anomalies cérébrales simplement par une ponction lombaire, c'est-à-dire qu'on fait, vous savez, une ponction lombaire, on récupère du liquide céphalo-rachidien, et là, on a des informations sur les modifications cérébrales, et notamment les lésions de la maladie dont on a parlé tout à l'heure. On peut même commencer à le faire dans le sang. C'est-à-dire que les lésions cérébrales, les biomarqueurs, vous voyez, ces marqueurs, cette signature biologique des lésions de la maladie, on peut maintenant probablement les avoir dans le sang. On est en train de travailler là-dessus. Ça n'est pas fiable à 100%, ça n'est pas fiable au niveau individuel, mais au niveau d'une population, vous voyez, on arrive à séparer très bien une population de sujets qui ont la maladie par rapport à des sujets normaux. Donc ça progresse. On pourra peut-être bientôt, dans l'avenir, c'est de la science-fiction, mais repérer ces fameuses lésions de la maladie simplement par une prise de sang. Alors je continue, et c'est la quatrième information, il y en a 10, hein. Quatrième information intéressante, c'est que maintenant on a des médicaments qui nettoient les lésions du cerveau. J'attends un peu parce que vous compreniez ce que je viens de vous dire. On a des médicaments qui nettoient les lésions du cerveau. Alors vous avez ici la preuve de ce que je vous avance. Vous voyez, vous avez là trois médicaments qui ont été étudiés. Là vous avez, avec le système que je vous ai montré tout à l'heure, système de visualisation des lésions. Vous avez là la concentration des lésions au début de l'étude. Vous voyez ? Au début de l'étude, et là, vous avez la prise du médicament pendant un an et demi, et vous voyez, quand on remesure les lésions un an et demi après, on passe de 100 à 20. On a nettoyé 80% des lésions du cerveau des patients. Voilà la réalité. On a des médicaments qui entraîne une disparition des lésions amyloïdes dans le cerveau des patients. C'est un résultat intéressant. Le problème, c'est que malheureusement, on n'a pas un effet parallèle sur les symptômes. C'est ça le problème. C'est que, évidemment, on n'est pas là pour soigner des lésions, on est là pour soigner des symptômes. Donc, on est déçu dans une certaine mesure. On est déçu parce qu'on s'attendrait à ce que cet effet spectaculaire sur les lésions s'accompagne d'un effet spectaculaire sur les symptômes. Ce n'est pas encore le cas. Une des raisons pour lesquelles on considère qu'il n'y a pas cet effet, c'est probablement parce que c'est les malades qui ont été impliqués dans ces études étaient des patients trop avancés dans la maladie. D'où l'idée de cette forme prodromale dont je vous ai parlé au début, qui devient à ce moment-là très intéressante. Et c'est effectivement ce qui se passe, parce que maintenant, les laboratoires s'intéressent à cette forme prodromale, à ces formes débutantes, et pour la première fois, on vient de montrer que ces médicaments, non seulement ont un effet sur les lésions, mais commencent à avoir un effet sur les symptômes. Et vous avez là ici un premier médicament qui s'appelle le lecanemab, qui montre qu'il y a effectivement un ralentissement de la courbe de progression, de la pente d'aggravation de la maladie, un an et demi après. Alors, on ne bloque pas l'évolution, on ne récupère pas les symptômes, mais on ralentit l'évolution de la maladie. C'est un début. C'est un début, d'autant plus que vous avez un deuxième médicament. Je vous montre là le donanemab, qui vient de montrer exactement la même chose, un ralentissement de la courbe d'aggravation, de la droite d'aggravation de la maladie. Vous voyez, donc on est sur la piste. On est sur la piste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, alors, les réserves, deux réserves importantes qu'il faut annoncer, qui est très importante à rappeler. La première, c'est que ces médicaments anti-amyloïdes ont des effets secondaires. C'est pas négligeable. On expose ces patients à des risques. Je passe. Et la deuxième information qui est importante, c'est que ça valide, comme l'a rappelé tout à l'heure Jean-Charles Lambert, ça valide le modèle de la cascade amyloïde. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on bloque les lésions amyloïdes, on voit qu'il y a un effet sur les symptômes, eh bien ça veut dire que cette cascade qui a été proposée au départ se trouve dans une certaine mesure validée, puisqu'on a un effet sur les symptômes en agissant sur les lésions amyloïdes. Voilà. Donc le modèle sur lequel on travaille me semble intéressant, et je pense que c'est une voie qu'il va falloir poursuivre. Qu'il va falloir poursuivre, notamment parce que, sixième information essentielle que je vous livre, c'est qu'on sait aujourd'hui que les lésions de la maladie précèdent la survenue des symptômes. C'est-à-dire, quand je vous ai dit tout à l'heure, nous allons pouvoir, si vous voulez, madame, venir avec moi voir si on a les lésions de la maladie, je n'ai jamais pensé que ni vous ni moi avions les symptômes de la maladie. Mais nous pourrions avoir les lésions de cette maladie, puisqu'on sait que ces lésions peuvent précéder de 15 ans la survenue des symptômes. Donc je peux être positif, je peux être biomarqueur positif, sans avoir du tout, croyez-moi, faites-moi cette élégance de penser que je n'ai pas la maladie, mais rien ne dit que dans les 15 ans qui viennent, je ne développerai pas la maladie. Donc si vous voulez, voyez, comme ça progresse, ça devient très très intéressant. La possibilité d'avoir accès aux biomarqueurs nous donne la possibilité de repérer des gens qui sont à risque de développer la maladie. Ce sont ce qu'on appelle des contrôles positifs. Donc, je continue, mais ça j'avance, j'en suis à 6. Donc, l'idée à ce moment-là, c'est qu'il y a, vous voyez, maintenant, à côté de la phase démentielle, celle décrite par Alzheimer, à côté de la phase prodromale, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a maintenant une troisième phase, qui est la phase préclinique, c'est-à-dire une phase de la maladie dans laquelle il n'y a pas de symptômes, mais ces trois phases sont réunies par la présence des biomarqueurs. C'est-à-dire les biomarqueurs nous permettent maintenant de catégoriser la maladie à différents stades, et notamment à un stade préclinique. D'où la question, finalement, et vous posez la question, finalement, mais alors à ce moment-là, il est en train de me dire... Il y a des médicaments qui nettoient les lésions, qui ne sont pas très actifs chez les gens malades. Mais il y a des gens qui sont normaux et qui ont déjà les lésions. Mais alors à ce moment-là, traitons les gens âgés, normaux, qui ont les lésions, on va nettoyer les lésions et on empêchera qu'ils rentrent dans la maladie. C'est logique. Et on est, et là c'est de la science-fiction, mais on est dans cette logique-là. Le problème, c'est que pour cela, il faut se garantir que le fait d'avoir des lésions détermine formellement d'avoir la maladie. Parce qu'on ne va pas traiter des gens qui sont normaux avec des médicaments dont je vous ai dit qu'ils étaient potentiellement dangereux pour une maladie qu'ils ne développeront peut-être jamais. Donc, vous voyez, on met le doigt dans un truc qui devient extrêmement complexe, mais intéressant. C'est-à-dire, est-ce que le fait d'être biomarqueur positif détermine le fait de développer la maladie? C'est la raison pour laquelle, je sais, il faut que je me dépêche, c'est la raison pour laquelle nous avons développé une étude qui s'appelle étude INSIGHT, où nous avons suivi 320 sujets âgés normaux, dont 88 avaient les lésions de la maladie. Ils étaient normaux, 88. On les a suivis pendant 7 ans. 7 ans après, qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur les 88, seuls 16 ont développé la maladie. Ce qui veut dire que 72 n'ont pas développé la maladie. En d'autres termes, et je résume, le fait d'avoir des lésions est nécessaire pour développer la maladie, bien sûr, mais n'est peut-être pas suffisante. Car il y a d'autres facteurs qui sont importants, des facteurs qui vont, si vous voulez, s'additionner ou des facteurs qui vont soustraire. Et on a mis en évidence, par exemple, qu'il y a des mécanismes de compensation. Brigitte Fanny Cohen m'empêche de vous développer ça, c'est passionnant, mais tant pis, j'ai pas le temps. Mais on a montré...
Oui, c'est juste pour ne pas défavoriser les intervenants qui viennent après vous.
On a montré qu'il y avait des mécanismes de compensation. Le cerveau est capable de réorganiser son activité électrique pour lutter contre les altérations de la structure et pour maintenir la fonction. C'est extraordinaire. C'est le concept que j'ai introduit de résilience cérébrale. Le cerveau est résilient. Alors, donc, maintenant, la question, c'est, et là, ça va vous rassurer, la question, c'est, est-ce que le fait d'avoir des troubles de mémoire, finalement, signifie que je suis dans la phase préclinique de la maladie d'Alzheimer? Alors, je vais vous raconter l'histoire d'une patiente, Madame X, 70 ans, etc., et là, il faut que je lise tranquillement ce dont elle se plaint. Vous pouvez le lire, s'il vous plaît, qui est en bas.
Alors, elle se plaint. Elle dit « Je ne sais plus compter mentalement, j'oublie ce que je viens de faire, je rentre souvent dans une pièce sans savoir ce que je viens y chercher, je donne un rendez-vous à ma fille, je lui dis « j'arrive, je n'y vais pas », lorsqu'elle me rappelle « j'avais totalement oublié le rendez-vous et sa raison », je ne reconnais plus un document que j'ai rédigé, je ne me souviens plus de ce que j'ai fait la veille, je ne sais plus si j'ai répondu à un courrier, au cours d'un trajet proche du domicile, j'oublie où je vais ». Je fais parfois des fautes d'orthographe aberrantes.
Voilà, bon là vous vous dites, la pauvre dame, c'est évidemment très très préoccupant pour elle, bien sûr, elle a certainement une maladie d'Alzheimer au stade avancé. En réalité, pas du tout. Les performances sont tout à fait normales, tout à fait normales. Je passe, je n'ai pas le temps de vous développer ça, mais si vous voulez, nous savons maintenant que le fait de se plaindre de sa mémoire n'a rien à voir avec la maladie d'Alzheimer. Et j'ai même montré, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais ça, avec ce petit graphique et ce papier qu'on a publié avec Agnès Michon, j'ai même montré que plus on se plaint de sa mémoire, moins on a de risques de développer la maladie d'Alzheimer. Et là, généralement, il y a un soulagement dans la salle que j'observe. Très bien. Donc, je passe rapidement, je n'ai pas le temps, mais simplement pour vous dire que la plainte de mémoire témoigne le plus souvent d'un trouble attentionnel. C'est un trouble de l'attention. On n'a pas bien saisi au niveau perceptif, vous voyez, mais ça ne veut pas dire que l'hippocampe est cassé, on enregistre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a mis au point des tests de mémoire, je n'ai pas le temps de vous expliquer ça, c'était dans un excellent livre que j'ai écrit sur la maladie d'Alzheimer, si vous voulez, c'est chez Grasset. Voilà. Et là, à partir de là, on a un projet santé-cerveau, la prévention est possible, on vous l'a expliqué, et voilà, et on arrive... Et ben voilà, il y a le livre là. Et on arrive à cette idée que j'ai de la clinique du risque. Je pense que dans l'avenir, il va falloir qu'on repère les sujets à risque grâce à des techniques et des outils digitaux que je suis en train de développer, qui s'appellent notamment le santé-cerveau, on aura l'occasion d'en reparler une autre fois. Je n'ai pas le temps d'en parler maintenant. C'est un petit outil digital, une petite application qui permet de connaître son fonctionnement cognitif. On pourra déterminer le risque des gens, on pourra faire des interventions ciblées, et ce qui est résumé dans la dernière diapositive, vous voyez, l'avenir, c'est ça l'avenir. Vous avez des sujets, vous voyez, qui viennent là, comme ça, un sujet parce qu'il est un peu inquiet ou parce qu'il se plaint de sa mémoire, et donc il viendra et il va participer à des cohortes de gens qu'on va suivre, comme ça, pour essayer de déterminer des algorithmes de prédiction, c'est-à-dire des gens comme vous, comme moi, on va venir dans ces centres de recherche, pour qu'on vous prenne des informations, qu'on fasse votre génétique, on vous fera des IRM, on vous fera des prélèvements de sang, etc. Et puis on va vous suivre. Et à partir de là, on pourra voir si certains d'entre vous, malheureusement, évoluent vers la maladie d'Alzheimer ou pas du tout. Et puis à partir de là, on verra chez ceux qui évoluent, quelles sont l'association subtile et complexe qui fait que, non seulement ils avaient les lésions, mais il y a d'autres facteurs qui vont... expliquer l'algorithme de prédiction. Et donc, on va pouvoir, à partir de là, à partir de ces bases de données, élaborer des algorithmes de prédiction. Alors imaginez maintenant qu'on a ces algorithmes. C'est ce qu'on va faire, nous, à Salpêtrière, on fera ça sûrement à Lille aussi. Et bien, une fois qu'on aura ces algorithmes, la même personne viendra dans ce que j'appelle des centres de prévention du déclin cognitif, des structures de prévention, où on appliquera ces algorithmes. Alors, par exemple, monsieur, vous allez venir à la Salpêtrière, dans mon centre de prévention, et puis je vais à ce moment-là regarder votre histoire personnelle, voir si dans votre famille il y a des gens qui, etc. On vous fera un petit prélèvement génétique, on verra deux ou trois choses, on vous fera quelques tests, et puis on verra votre risque, et on va déterminer, vous êtes parfaitement normal, mais on déterminera votre risque, on dira, ben, vous n'avez aucun risque de développer la maladie d'Alzheimer, vous n'avez pas les lésions, vous n'avez pas les facteurs. Et puis peut-être que d'autres, on dira, ben, y a quand même un risque par exemple de 80%. Eh bien, là, à ce moment-là, chez ceux-là, on pourra à ce moment-là faire des interventions ciblées sur des facteurs de risque et peut-être mettre en route ces médicaments dont je vous ai dit qu'ils permettaient de nettoyer les lésions. On ne pourra le faire que si le risque est élevé. Donc ça veut dire qu'il faut calculer le risque, ça veut dire qu'il faut avoir les algorithmes de prédiction, c'est-à-dire qu'il faut avoir les cohortes, etc. etc. Et c'est ce que nous allons faire maintenant dans l'avenir grâce aux fonds qui nous sont donnés par la Fondation pour la recherche Alzheimer et grâce aux équipes avec lesquelles nous travaillons à la Salpêtrière. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, professeur Dubois, pour cet exposé passionnant. Désolée de vous avoir pressé, mais c'est le jeu, hein, parce qu'il y a des intervenants après vous.
J'aime bien ce rapport sado-maso que nous avons ensemble.
Ça doit être un peu ça. Alors, on est un petit peu en retard, mais on va quand même prendre deux, trois questions, si vous pouvez y répondre rapidement. Qui voudrait poser une question, professeur Dubois, sur cet exposé? Oui, madame. Attendez, on va vous donner un micro.
Bonjour. Les traitements médicaux pour cette maladie, est-ce qu'ils sont en fonction du stade, ils sont donnés en fonction du stade où on en est, ou alors c'est le même, peu importe la détection de la maladie, et merci. Quelle est l'efficacité?
Merci pour cette question qui me permet de clarifier les choses. Aujourd'hui, ces médicaments dont j'ai parlé ne sont pas sur le marché. Ce sont des médicaments qui sont encore en développement. On attend l'autorisation de l'agence européenne. Après, il faudra qu'il soit autorisé en France. On aura probablement ce qu'on appelle des fast tracks pour leur usage rapide, mais ce n'est pas avant 2 ans hein, en France. Alors, il y a d'autres médicaments, comme vous le savez, mais ce n'est pas ceux-là dont vous me parlez, je pense, non plus. Donc, ces médicaments, quand ils seront mis sur le marché, s'ils le sont, mais je pense qu'ils le seront, seront, si vous voulez, dans des fenêtres de maladies très, très, très précises et qui sont les fenêtres qui ont été choisis pour développer ces médicaments. Voyez, ces médicaments ont été développés dans des phases relativement précoces de la maladie, donc ils seront proposés dans des phases relativement précoces de la maladie.
Une autre question? Oui.
Bonjour. Comme vous parliez qu'il n'y avait pas forcément, que c'était détecté tôt, mais par la suite, il n'y avait pas forcément le développement de la maladie, qu'il y avait des risques graves, à chaque fois, ça va être fait sur un bénéfice-risque qu'on va se décider à qui on donne les médicaments.
J'ai un problème là de
position. Oui, c'est-à-dire que vous avez expliqué tout à l'heure que c'était des médicaments qui comportaient des effets secondaires. Oui. Alors, est-ce qu'on va calculer le rapport bénéfice-risque avant de donner ces médicaments?
Écoutez, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que Comme je viens de répondre à la question précédente, il va falloir proposer ces médicaments à des phases relativement précoces. Ce sont des gens qui ont encore, je dirais, une certaine autonomie ou qui sont au début d'un état démentiel. Et c'est vrai qu'il y a quand même un risque de 1% d'effets secondaires graves. Il y a eu quand même 3 morts c'est plus que grave, oui, c'est terminal. Il y a eu 3 morts dans la dernière étude. Donc finalement, la question se posera. La question se posera et ça sera en connaissance de cause que les familles décideront. Soit, vous avez vu, ce n'est qu'un ralentissement d'une aggravation par rapport à un risque qui sera faible parce qu'il y a quand même des moyens d'accompagner, si vous voulez, la prescription médicale avec des IRM régulières pour éviter ces fameux effets secondaires qui sont des œdèmes cérébraux liés à l'efficacité du médicament. Donc on pourra le surveiller, le contrôler. Mais il y a eu quand même, je vous ai dit, il y a eu 3 cas de mort et ça, c'est un vrai, vrai problème. C'est-à-dire que si vous avez un sujet de 70 ans, qui est l'âge parfait pour initier un médicament, qui est un peu au début de sa maladie, il faut pas qu'il y ait un accident de cette gravité-là, parce que on sera évidemment très, 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 très déçu, bien sûr, de ce résultat.
Du coup, le diagnostic est forcément posé pour donner le médicament.
Oui.
Je vous remercie, professeur Dubois, pour toutes ces informations sur les nouveaux traitements.